Le journal Mireille Boukata.
L'invalidation de 18 députés nationaux confirmée hier à l'Assemblée nationale. Au cours d'une plénière agitée, les parlementaires ont déclaré applicables les arrêts de la Cour suprême de justice. Des nouvelles troupes de la MONUC déployées à Dungu en province orientale. Objectif, faciliter aux rebelles ougandais des LRA leur départ au Sud-Soudan où se déroulent les négociations avec le gouvernement de leur pays. Inauguration hier mardi à Kinshasa de l'hôpital ultramoderne Biamba Marie Mutombo. Cet hôpital construit par la fondation Mutombo Dikembe vise l'accès aux soins par toutes les couches sociales de la population. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plénière houleuse hier à l'Assemblée nationale sur l'invalidation de 18 députés nationaux. Les députés ont déclaré applicables les arrêts de la Cour suprême de justice. Par ce vote intervenu après un long débat sur le rapport de la commission Matadinenga, l'invalidation de ces 18 députés a été confirmée. À l'issue de cette plénière, quelques recommandations relatives au bon fonctionnement de la justice congolaise ont été formulées par le bureau de l'Assemblée nationale. Jeff Ngoy pour le reportage.
Une des recommandations porte sur la convocation urgente d'une réunion devant regrouper le bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République et la Cour suprême de justice. Cette réunion consiste à tirer toutes les conséquences qui découlent de ces arrêts. L'Assemblée plénière propose, entre autres, de réformer la justice congolaise, la restructurer et sanctionner tous les magistrats impliqués dans la magouille concernant les contentieux électoraux. Cependant, il faut noter que les députés reprochent à la Haute Cour le fait de rendre ces arrêts hors délai constitutionnel et entacher des irrégularités. En dépit de ces erreurs, soutiennent bon nombre de députés juristes, les arrêts de la Cour, mauvais ou bons, doivent être exécutoires. Ils sont opposables à tous. Il convient toutefois de les appliquer et de corriger ces erreurs pour qu'elles ne se reproduisent plus dans l'avenir. Pour rappel, la commission Matadinenga était chargée depuis le 18 avril dernier d'examiner les arrêts de la Haute Cour invalidant 18 députés nationaux.
Le ministre congolais de la Justice se dit déterminé à réformer en profondeur le système carcéral en RDC. Georges Minsay l'a déclaré hier mardi à l'occasion de l'ouverture de 3 jours d'assises pénitentiaires à Kinshasa. Il estime que 90% des maisons carcérales du Congo sont en mauvais état. Les prisons sont surpeuplées, les conditions d'hygiène y sont désastreuses et les normes internationales sont bafouées dans des conditions dramatiques, la quasi-totalité ayant été construite avant l'indépendance du Congo en 1960. Le ministre a appelé les experts, les agents du secteur et les ONG participant à ces assises à réfléchir, entre autres, sur un projet d'ordonnance portant fonctionnement du système pénitentiaire en remplacement de l'ordonnance de 1965, actuellement en vigueur. Nouveau déploiement des troupes de la MONUC à Dungu, territoire du district du Haut-Ouélé, situé non loin du parc de la Garamba en province orientale. Ces informations ont été confirmées ce mardi à Bounia par le colonel britannique qui dirige cette opération. Cet officier indique que la mission de ces troupes est d'offrir un couloir de sécurité aux rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LRA pour faciliter leur départ vers Djouba au Sud-Soudan où se déroulent des pourparlers de paix avec le gouvernement de leur pays. Des précisions avec Jean-Paul Basile.
C'est depuis 6 jours qu'une équipe d'avance composée d'un contingent des 80 soldats marocains et d'un groupe d'ingénieurs militaires indonésiens est arrivée à Dungu Centre. Sitôt arrivés, ces soldats de paix se sont mis à aménager l'aéroport local. Les colonels Clive Newell, responsable de cette opération, estiment que si un succès dans le pourparler entre des rebelles ougandais de LRA et le gouvernement de Kampala, la MONUC pourra organiser leur évacuation de la République démocratique du Congo à partir de cette base aérienne de Dungu.
Les troupes ont été envoyées en prévision du succès des pourparlers de paix de Djouba. Nous espérons que la conclusion pacifique de ces pourparlers verra les LRA quitter la République démocratique du Congo. Nous avons déployé des soldats et des ingénieurs à Dungu pour améliorer l'aéroport, ce qui nous permettra de mener des opérations et de garantir des corridors de sécurité pour les LRA. Et certainement, à la fin de l'année, nous pourrons mener des opérations en hélicoptère depuis la base aérienne de Dungu.
Le mandat de ces troupes de la MONUC à Dungu dépendra du succès sur l'évolution des pourparlers de paix entre la LRA et les gouvernements ougandais. Mais leur présence ainsi que la rénovation de l'aéroport contribueront aussi au succès des futures élections locales et au développement des activités humanitaires dans ces secteurs. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des centaines d'habitants de la localité de Mihano, à 10 km de Massissi Centre, ont fui leur village depuis lundi dernier. Ils affirment avoir fui les tracasseries des militaires mixés de la brigade Charlie depuis environ 4 jours. Un notable de cette localité affirme que les militaires pillent et tabassent les paysans de maison en maison. Mais cela n'est pas l'avis des responsables militaires basés dans cette partie du Nord Kivu, Bernard Denyangi.
Le commandant du bataillon Charlie basé à Massissi, lui, parle plutôt d'une série d'opérations de bouclage menées dans cette localité pour rechercher des armes détenues par les civils, une opération dans laquelle les deux armes ont été récupérées et leurs détenteurs arrêtés détenus au cachot à Massissi en attendant d'être transférés à Goma. Ce responsable militaire ajoute que ces opérations font suite à l'assassinat il y a 5 jours par des civils armés d'un militaire de son bataillon commis à la garde des dents, véhicule militaire embourbé près de ce village. Pour l'heure, selon les sources administratives de Massissi, les habitants de Mihano seraient en train de retourner dans leurs biens et une rencontre de sécurité est prévue jeudi prochain à Massissi Centre pour mettre fin au conflit. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Inauguration ce mardi à Kinshasa de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. L'édifice a été construit par la fondation Mutombo Dikembe, la star congolaise évoluant aux États-Unis. Le coût global des travaux est évalué à 20 millions de dollars américains. Actuellement, l'hôpital est d'une capacité de 110 lits. Dans sa phase finale, il sera d'une capacité de 300 lits. René Capita était sur place et revient sur la cérémonie inaugurale.
Devant des personnalités gouvernementales, militaires, diplomatiques et des chefs d'entreprise, le chef de l'État a coupé le ruban symbolique, inaugurant ainsi l'hôpital Biamba Marie Mutombo, dédié à la mère du célèbre basketteur Mutombo Dikembe. Dans son allocution, Mutombo Dikembe, initiateur et président du conseil d'administration de l'hôpital, a exprimé la vision qui l'a motivé à construire un hôpital dans son pays natal.
Et nous voulons que notre continent Afrique cesse d'être appelé le continent oublié. Ravagé par des maladies du sida et d'autres maladies dues à la pauvreté sont effroyables et doivent être combattues. La fondation Mutombo Dikembe a construit cet hôpital comme un modèle de travail en commun, la main dans la main. Nous prions donc pour que les fils et les filles des Congos prennent soin de ces bijoux symboliques pour notre pays. Que nul ne vienne les détruire.
Le gouverneur de la ville, quant à lui, a invité la population à respecter cette œuvre pour ne pas anéantir les efforts consentis en vue de l'amélioration de la qualité des soins dans la ville de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par une visite du chef de l'État et de toutes les personnalités présentes à travers les pavillons de l'hôpital.
Pour permettre l'accès aux soins à l'hôpital Biamba Marie Mutombo à toutes les couches sociales, un système de tarification selon les catégories sociales de la population a été mis en place. C'est ce qu'explique le médecin directeur de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Ses propos sont recueillis par René Capita.
On aura au moins 3-4 tarifs, ceux qui ne paient rien et qui sont vraiment indigents. Alors le tarif 2 sont les gens qui sont indépendants mais sans grande fortune, comme les chômeurs, les étudiants qui ne travaillent pas encore. Nous avons le tarif 3, ça c'est le tarif plein, c'est-à-dire les gens qui travaillent normalement, donc ils peuvent subvenir à leurs besoins. Et alors le tarif 4, c'est le tarif VIP. Si vous voulez être au petit soin, il faut payer aussi le prix, c'est comme un peu à l'hôtel. Ces quatre niveaux permettent un peu à toutes les couches de pouvoir être soignées. Alors ce que nous avons dit, c'est qu'on ne peut pas soigner toute la population de Kinshasa parce qu'il y a des hôpitaux qui sont aussi bien équipés, qui peuvent faire le travail. Nous sommes un plus dans l'ensemble des hôpitaux de la ville de Kinshasa, mais un plus avec peut-être quelque chose de nouveau. C'est-à-dire on essaie un peu de moderniser, d'atteindre le niveau des autres hôpitaux de par le monde, les hôpitaux sérieux.
Dans la province de l'Équateur, l'eau de la régie des eaux pourra à nouveau couler des robinets de Guémena. Le vice-ministre national de l'énergie l'a annoncé hier mardi. Monsieur Arthur Cédéa a lancé les travaux de réhabilitation de la régie des eaux Guémena qui ne fonctionne plus depuis une dizaine d'années. Selon le vice-ministre, il s'agit de remettre en état les forages creusés depuis 1987. Actuellement, la population recourt à l'eau de puits artésiens et les propriétaires des puits vendent un bidon de 25 litres. À 150 francs congolais. 40 bornes seront installées pour le moment, a indiqué le vice-ministre. Arthur Cédéa au micro de Alphonse Soisseau.
L'ancienne usine est délabrée et à l'état d'abandon. Une nouvelle usine sera construite sur un autre site très prochainement. Mais pour aujourd'hui, nous voulons utiliser nos forages pour donner l'eau à la population. C'est-à-dire une partie de cette usine sera utilisée pour pomper de l'eau à la population. Et le projet de la construction de la nouvelle usine très bientôt sera mis sur pied grâce à l'appui et aux efforts du chef de l'État. Tous les matériels nécessaires pour lancer ces travaux sont déjà sur place ici à Guenena, à l'exception peut-être du compresseur qui est à Zongo, qui sera ramené très bientôt avec le véhicule qu'on a réhabilité.
Après combien de temps la population peut espérer obtenir l'eau?
Très bientôt. Il y a de quoi espérer. J'ai dit très bientôt.
Le vice-ministre n'a pas voulu donner d'échéancier précis car l'État attend notamment du financement de la Banque mondiale. Il demande également l'implication de tous les députés en vacances pour conscientiser la population à évacuer paisiblement les sites de la Régie des Eaux. Ouverture hier mardi à Mbujimayi dans la salle de la MIBA des travaux de la bipartite entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Ces travaux portent sur les limites des frontières des deux provinces. Cette rencontre réunit les membres du Conseil de sécurité, des chefs d'entreprise publique et quelques chefs de division de l'administration publique de deux Kasaï. Ces travaux visent à épargner les deux provinces des conflits fonciers. Billy Van Lutumba.
Cette bipartite fait suite aux multiples conflits fonciers enregistrés ces cinq dernières années entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Le dernier en date remonte à mai 2007 lors des affrontements entre les populations de Tenda et de Dibataï au sujet de l'appartenance de la localité de Kajingu. Dans son intervention, le gouverneur de province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoy Kassanji, a rappelé le bilan officiel de ce conflit qui avait fait un mort, 10 blessés, 295 incendiés, des vivres et bétail perdus des parts et d'autre. Peu avant le début des travaux en commission, les deux gouverneurs ont rappelé les divers conflits récurrents qui opposent leurs provinces respectives. Pour éviter la répétition de ces déchirements, les discussions sont centrées sur la situation juridique des limites administratives entre les deux provinces, la localisation des conflits limitrophes et les problèmes administratifs connexes à ces conflits. Face à toutes les divergences entre les deux provinces, chaque gouverneur a proposé des pistes de solutions afin d'harmoniser les vues. À cet effet, deux commissions ont été mises sur pied, l'une chargée de la sécurité et l'autre des limites territoriales. La fin de ces travaux est prévue ce jeudi par une visite de terrain sous les frontières en litige. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le travail dans les régies financières reprend effectivement ce mercredi. Confirmation du président de la délégation syndicale de l'OFIDA. Depuis hier mardi, les agents des régies financières touchent la totalité de leur bonus à la base d'une grève déclenchée depuis la semaine dernière. Le président de la délégation syndicale de l'OFIDA demande aux agents de reprendre le travail. Tatim Sungani est joint par Blaise Shindani Kambala.
Comme prévu, le ministère a libéré l'intégralité du bonus, même si c'est vrai dans la pratique, le montant sont en train de s'accumuler progressivement, compte tenu de son importance. Pour ce qui est de la délégation syndicale, nous avons demandé aux agents de reprendre le service. Et depuis aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, le service a repris. Évidemment, il faut dire qu'il a repris timidement parce qu'il faut reprendre les habitudes de travail. D'autre part, la paie a démarré, pour ce qui est de l'OFIDA en tout cas, et les agents sont en train progressivement de prendre leur argent du bonus en totalité comme prévu sur le protocole d'accord.
Oui, là donc, président, vous êtes en train de nous confirmer que plus rien ne pourrait bloquer le redémarrage du travail.
Je vous confirme, j'ai devant moi le directeur financier de l'OFIDA, il est devant moi, et j'ai le coordinateur de la paie aussi devant moi. Je vous confirme que la paie a déjà démarré. La paie a démarré pour tout le monde, c'est-à-dire OFIDA national.
L'opération de paie a également commencé à la DGRAD hier après-midi. Quant à la DGI, selon le président de la délégation syndicale, la paie avait timidement commencé hier tard dans la soirée. À Kisangani, en province orientale, tous les services de la mairie seront délocalisés prochainement pour un autre bâtiment dans la ville. Ces bâtiments de la mairie serviront de bureaux et de résidence du chef de l'État. Ils devront ainsi être réhabilités. L'annonce a été faite dimanche dernier par le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures lors d'un point de presse organisé au jardin du restaurant hellénique. Kimbembe Mazunga explique le choix de ce bâtiment ainsi que les conséquences positives de sa réhabilitation. Il est au micro de Godlivo.
Le chef de l'État a estimé que ce n'était pas normal qu'il vienne dans une province, en l'occurrence la province orientale, à Kisangani, et recevoir le secrétaire général des Nations Unies dans les locaux du gouvernorat. Le président de la République doit avoir des bureaux et des résidences dans chaque chef-lieu de chaque province. Instruction avait été donnée au ministre de l'Intérieur, demander à chaque gouverneur de province d'identifier un certain nombre de bâtiments de l'État qui puissent être réhabilités pour servir des résidences et des bureaux du chef de l'État. Et au niveau de la province orientale, c'est les autorités provinciales qui ont désigné les bâtiments de la mairie. Ces bâtiments-là ont une valeur touristique incommensurable. Il n'y a pas de raison sécuritaire. Vous savez, madame, le chef de l'État à Kinshasa est voisin de maisons d'habitation. Vous savez que le mausolée Musée Laurent Désiré Kabila est un site touristique qui est fréquenté par des centaines de personnes chaque jour. Et c'est à 200 mètres du bureau du président de la République. Mais lorsque le bâtiment sera restauré, ces bâtiments auront une plus-value touristique immense. Et on n'empêchera pas les gens d'admirer cette beauté.
Contacté, le président de l'Assemblée provinciale a déclaré que son organe n'a pas d'objection à ce sujet, mais il souhaite plutôt qu'un autre bâtiment soit réhabilité au profit de la mairie avant sa délocalisation du site actuel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.